VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Il est 17h à Bamako et 18h à N'Djamena et Brazzaville. 38 personnes, dont une majorité de femmes et d'enfants, ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi dans le sud-est du Niger dans une attaque des islamistes de Boko Haram, indique l'AFP. Il s'agit des plus lourdes pertes civiles enregistrées au Niger depuis que le pays est entré en février dernier dans la coalition de lutte contre le groupe extrémiste d'origine nigériane. Les salafistes sont venus à bord de véhicules. Ils les ont laissés juste à la frontière. Et sont venus à pied attaquer les deux villages, a raconté un journaliste, ajoutant que les assaillants ont poussé des femmes et des enfants dans des maisons avant d'y mettre le feu. Les autorités de transition en Centrafrique ont fixé ce vendredi la tenue de l'élection présidentielle au 18 octobre, rapporte l'AFP. Il s'agit du troisième report de ce scrutin initialement prévu en novembre 2014 dans ce pays en crise politico-sécuritaire. Selon le nouveau calendrier rendu public à la radio nationale, proposé par l'autorité nationale des élections et validé par le comité stratégique de suivi des élections, le premier tour des législatives et de la présidentielle est fixé au 18 octobre et l'éventuel second tour de ces deux scrutins au 22 novembre. Le régime de transition prévoit un référendum constitutionnel le 4 octobre, a déclaré à la radio Adrien Poussou, conseiller en communication du Premier ministre. Le texte définitif du projet de nouvelle constitution ainsi que le code électoral doivent être prêts d'ici là. La violence contre les enfants au Soudan du Sud a atteint un nouveau niveau de brutalité depuis le mois de mai, a fait savoir dans un communiqué le directeur de l'UNICEF, Anthony Lake. Des précisions avec Michel Joseph.
Les détails de l'aggravation de la violence contre les enfants sont inqualifiables, mais nous devons en parler, s'insurge le directeur de l'UNICEF. Au moins 129 enfants dans l'état d'unité ont été tués pendant seulement 3 semaines en mai. Les survivants indiquent que des garçons ont été émasculés et saignés à mort. Des filles d'à peine 8 ans ont été violées collectivement et assassinées. Des enfants ont été attachés ensemble avant que leurs agresseurs ne les égorgent. D'autres ont été jetés dans des bâtiments en feu, poursuit Anthony Lake. Des enfants sont aussi agressivement recrutés dans des groupes armés des deux côtés à un rythme alarmant. Ils ont environ 13 000 contraints de participer au conflit, rappelle M. Lake, ajoutant « Imaginez les effets psychologiques et physiques sur ces enfants, non seulement de la violence qui leur est infligée, mais aussi la violence qu'ils sont forcés d'infliger à d'autres. » Au nom de l'humanité et de la décence ordinaire, cette violence contre les innocents doit cesser, a souligné M. Lake. La guerre civile au Soudan du Sud est caractérisée par des massacres ethniques attribuables aux rebelles tout comme aux troupes gouvernementales. L'ONU a averti cette semaine que 250 000 enfants risquaient de mourir de faim au Soudan du Sud et que les deux tiers des 12 millions d'habitants ont besoin d'aide humanitaire et sécuritaire.
Au Burundi, selon l'Association pour la protection des droits humains et des personnes détenues, au moins 70 personnes ont été tuées et environ 500 blessées dans les violences liées au mouvement de contestation depuis le mois d'avril. Environ un millier de personnes arrêtées depuis le début des manifestations contre la candidature du président Pierre Nkurunziza à un troisième mandat sont encore en détention. D'autre part, un responsable du parti au pouvoir au Burundi a été tué dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés à Matana, rapporte l'AFP. Changement de gouvernement au Bénin. Le nouveau Premier ministre est le banquier franco-béninois Lionel Zinsou. Son gouvernement a 28 membres contre 27 pour le précédent. Le portefeuille de plus est un nouveau poste de vice-premier ministre. Le Royaume-Uni a allégé les restrictions de voyage sur la côte kényane mises en place en raison d'attaques du groupe Al-Shabaab. Celles du grand port touristique de Mombasa ont été levées. Londres déconseille toujours l'archipel de Lamu près de la frontière somalienne et tout voyage non essentiel à moins de 60 km de la frontière en raison d'un risque élevé de terrorisme et de kidnapping. Les stations balnéaires plus au sud sont désormais autorisées, indique le Foreign Office. Les pays occidentaux ont multiplié ces dernières années les avertissements sur les zones côtières kényanes où les attentats sont fréquents. Le Kenya dénonce ces alertes étant donné l'effet qu'elles ont sur le secteur touristique et l'emploi national. Les voyageurs britanniques sont parmi les touristes les plus nombreux à visiter le pays. Dans un communiqué mis en ligne la nuit dernière, Al-Qaïda au Maghreb islamique a démenti la mort du chef djihadiste Mokhtar Belmokhtar dans une frappe américaine le week-end dernier en Libye. Le groupe Al-Murabitoun de Belmokhtar avait déjà démenti jeudi la mort de son chef dans cette frappe. Les États-Unis ont annoncé avoir mené dimanche un raid dans l'est de la Libye pour tenter de tuer Mokhtar Belmokhtar et le gouvernement libyen avait affirmé que ce dernier avait péri dans la frappe.
VOA Afrique en direct de Washington.
Aux États-Unis, l'auteur présumé de la tuerie dans une église historique en Caroline du Sud doit comparaître ce vendredi après-midi pour une demande de remise en liberté en attendant son procès. Dylan Roof est accusé des meurtres de 9 Africains-Américains au cours d'une soirée d'études de la Bible mercredi soir à l'Emmanuel African Methodist Episcopal de Charleston. D'autres détails avec Jacques Aristide.
L'enquête suit son cours, mais CNN rapporte que Dylan Roof aurait avoué son crime aux autorités policières. La chaîne américaine cite un représentant des forces de l'ordre pour dire que le jeune homme de 21 ans voulait ainsi provoquer de nouveaux affrontements raciaux aux États-Unis. Ces confessions corroborent les déclarations de Joey Meeks, un de ses amis d'enfance. Roof lui aurait confié que les Noirs sont en train de prendre le contrôle du monde et que quelqu'un va devoir s'en occuper pour la race blanche. Hier soir, à Charleston, de nombreux habitants ont tenu une vigile à la mémoire des victimes de l'église Emmanuel, une église liée à la lutte des Africains-Américains pour les droits civiques, d'où l'enquête pour crimes haineux ouverte par le département américain de la justice. Quant à la gouverneure de la Caroline du Sud, Nikki Haley, elle a déclaré à la chaîne NBC qu'elle voulait absolument que Dylan Roof écope de la peine de mort. Des soirées de prière continuent de se tenir à Charleston, mais aussi ailleurs dans le pays.
Le département d'État vient de rendre public son rapport annuel sur le terrorisme dans le monde. Des détails avec Salwa Jafari.
2014 était une année violente. L'État islamique, Boko Haram, y ont largement contribué. Le nombre d'actes terroristes a augmenté d'un tiers, le nombre de décès a presque doublé, le nombre d'enlèvements a lui triplé. 33 000 personnes sont mortes dans presque 13 500 attaques terroristes dans le monde en 2014. Le rapport attribue la hausse des attaques à l'augmentation de l'activité terroriste en Irak, en Afghanistan et au Nigeria. Les attentats sont de plus en plus meurtriers. 20 attaques ont tué plus de 100 000 personnes chacune en 2014. Rappelez-vous ce massacre dans une école à Peshawar au Pakistan ou encore celle contre une prison à Mossoul en Irak dans laquelle 670 prisonniers chiites sont morts. Les attaques terroristes ont eu lieu dans 95 pays en 2014, mais ont été concentrées au Moyen-Orient, en Asie du Sud, en Afrique de l'Ouest, l'Irak, le Pakistan, l'Afghanistan, l'Inde et le Nigeria ont représenté plus de 60% des attaques, avec la Syrie environ 80%. Et puis il y a les enlèvements. Les groupes terroristes en Syrie, notamment le groupe État islamique et le Front al-Nusra au Nigeria, Boko Haram, étaient responsables de la plupart, sinon la totalité, avec près de 1300 enlèvements, dont plusieurs centaines de jeunes filles d'une école de Chibok.
Un cessez-le-feu au Yémen a besoin de plus de consultations, mais peut être conclu assez rapidement, a déclaré ce vendredi à Genève l'envoyé spécial de l'ONU pour le Yémen, le sous-secrétaire général Ismail Oul Sheikh Ahmed. Une déclaration faite à Genève à l'issue des consultations sur le Yémen qui se sont terminées aujourd'hui sans résultat, selon le diplomate, mais aucune date n'a été fixée pour de nouvelles consultations. Dans un rapport publié aujourd'hui, Human Rights Watch exhorte l'Union européenne à maintenir ses opérations de grande envergure pour secourir les migrants cherchant asile sur son territoire. Les dirigeants européens vont discuter de ce problème la semaine prochaine. Des milliers de migrants en provenance d'Afrique et du Moyen-Orient traversent la Méditerranée en quête d'asile et l'Union européenne tente de mettre en place une nouvelle politique pour faire face à cette situation. Voilà pour le bulletin dans 20 minutes Le Monde aujourd'hui avec Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil sur VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.